J'ai été travaillé ce matin par un verset que je ne pensais pas inclure dans ma prédication. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et au verset 28. Ce sont les cinq premiers mots de ce verset. Et je pense que ça nous servira de conclusion tout à l'heure pour voir vraiment où nous en sommes de notre communion avec le Seigneur. Matthieu 27, on va lire ce verset simplement. Je ne sais pas si vous réalisez l'humiliation qu'on lui a fait subir, rien qu'au travers de ce simple verset. Matthieu 27, n'oubliez pas pour ceux qui découvrent l'Évangile que le Seigneur Jésus, c'est le Créateur du ciel et de la terre incarné. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Vous comprendrez la signification spirituelle tout à l'heure. Dans le prophète Osée, c'est un petit prophète après les grands, vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée. Nous allons lire dans le chapitre 4 les six premiers versets, s'il vous plaît. Osée, vous savez quand vous trouvez Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, parce que c'est... Il n'y a que 12 chapitres, quoi, 14 hein, 14. Osée, chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur parle à son peuple, il a des choses à lui dire. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Osée, chapitre 4, verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a pas de vérité, pas de miséricorde, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. C'est le verset 6 qui nous intéresse. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Au chapitre 6, ce sera la conclusion. Nous voyons que malgré le procès que Dieu fait, il y a bien sûr... une invitation, Osée chapitre 6, verset, on va lire que la partie qui nous intéresse, le verset 3. Regardez combien Dieu ne veut pas que nous en restions là si ça ne va pas. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc Dieu exprime ce qu'il a à dire, toujours d'ailleurs, ce que l'Esprit a à dire aux églises. Vous savez, nous, je l'ai dit, mais pour ceux qui... l'ont peut-être pas bien entendu. Nous avons besoin d'entendre la parole. Mais en vérité, ce n'est pas la parole que nous avons besoin d'entendre. C'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a vraiment à me dire? On a chanté un très, très beau cantique. Te connaître, Jésus. C'est un très beau cantique. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Ou est-ce qu'on veut avoir la bénédiction? Ce qui n'est pas non plus interdit. Mais quand on chante des chants aussi profonds, te connaître Jésus, est-ce que nous voulons le connaître davantage ou est-ce que nous le connaissons trop? Le verdict est là, Dieu ne le dit pas pour nous gêner, puisque nous allons voir en conclusion que Dieu réitère ses invitations. Connaissons, cherchons à connaître Dieu, on voit bien que Dieu n'est pas d'accord et qu'il y a une solution, mais quand même, il est important de comprendre comment Dieu pense les choses. Les gens ne connaissent pas Dieu. Je peux vous le dire. D'ailleurs, on va voir à quoi on reconnaît quelqu'un qui connaît Dieu et à quoi on reconnaît quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, au travers de cette méditation. Au verset 6, si vous avez toujours votre Bible ouverte, on voit bien, Dieu parle à son peuple. Il parle de certains problèmes. « Mon peuple », il dit. Dieu parle au peuple. Au peuple, bien sûr, à une famille chrétienne, à une assemblée, à un individu. Vous faites partie du peuple de Dieu. Il y a des textes qui vraiment s'adressent au peuple de Dieu. Il y a des paroles, il y a des textes qui s'adressent à tout le monde. Par exemple, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça s'adresse à qui? Aux chrétiens ou aux païens? À tous. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a plein de textes, comment ça, demandez et vous recevrez, ça s'adresse aux pécheurs, ça s'adresse aux chrétiens, et il y a plein de textes dans la Bible, on voit bien que ça s'adresse à tout le monde. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous devez accepter que c'est la parole de Dieu, si vous ne l'acceptez pas, c'est votre affaire. Mais vous devez comprendre que quand Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ça s'adresse à tous les hommes. Dieu veut que les hommes adorent Dieu. Si vous ne l'adorez pas, c'est votre problème, mais en tous les cas, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle nous est communiquée, il faut que ça soit sérieux. S'il y a bien quelque chose qui est archi sérieux, c'est le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes, la santé de nos églises. Car à quoi on reconnaît une église où le Saint-Esprit peut agir, ça c'est un autre sujet bien sûr. Mais mes frères et sœurs, je crois que dans une église, quand il y a beaucoup de respect, d'intersoumission, il y a des bases sur lesquelles le Seigneur peut construire vraiment son église. Dieu montre. Il montre ce qu'il a à dire, là, mon peuple, alors qu'est-ce qu'il dit ? Mon peuple est détruit. J'ai cherché dans plusieurs versions, il y en a une version qui dit mon peuple périt. Ça fait mal au cœur, on sait qui c'est qui détruit en plus. Qui c'est le destructeur ? Ouais. Le voleur, il ne vient que pour détruire. Et lorsque nous ne veillons pas et lorsque nous ne connaissons pas Dieu, il va de soi que ça lui est facile à l'ennemi de détruire les églises. Et nous devons absolument croire que Dieu a le pouvoir de changer les choses. Vraiment le croire. Mon peuple, oui, Dieu parle à son peuple. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et il fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne lui appartiennent pas. C'est ce qui a fatigué beaucoup les pécheurs de voir des églises où, en fin de compte, les gens n'ont aucune piété. Et Dieu le sait, et quand il parle, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, doctrinale. C'est certain qu'un vrai chrétien, il doit connaître la doctrine. Et que si je vous posais certaines questions sur la doctrine, vous seriez certainement capable de me répondre, tiens, ceci par rapport à la Sainte-Seine, ceci par rapport à l'enfer, ceci par rapport au baptême du Saint-Esprit, etc. Il y a une doctrine, mais le Seigneur ne parle pas de la doctrine. Le Seigneur ne parle pas de la théologie, le Seigneur ne parle pas de géographie, au cas où quelqu'un s'imaginerait que le peuple de Dieu ne va pas bien à cause de la géopolitique, j'en sais rien, parce qu'il y a des églises où le discours est purement politisé. Ou intéressé par la religion. C'est pas ça. Dieu est en train de dire à son peuple qu'il ne le connaît pas à lui. Et que ça a des répercussions terribles. Nous voulons, nous, connaître le Seigneur. Ça vous intéresse de le connaître davantage ? C'est un procès, le Seigneur le présente comme ça, c'est bien sûr que c'est bien dit, c'est sûr. Voilà, Dieu dit, voilà le procès que j'ai avec mon peuple. C'est quelque chose qu'il faut régler, un procès, il faut le régler. Ça se règle avec beaucoup de sérieux, c'est une affaire sérieuse, parce que le salut des âmes ne dépendra pas de l'organisation, de la méthode, de l'art, et de tout ce que vous voudrez, de l'argent, de l'intelligence, de l'organisation, ça viendra par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit par des gens qui connaissent Dieu, qui le connaissent vraiment. Voilà le procès. Ça nous fait réfléchir et on doit se poser la question. Mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Ils sont remplis de religiosité. Ils n'ont jamais abandonné le culte. Tenez-vous bien, si vous lisez l'Ancien Testament, vous savez que je n'exagère en rien. Et combien de chrétiens ils sont exactement dans le même cas? Ils n'ont jamais abandonné l'Église. Ils n'ont jamais abandonné le service même. Je sais de quoi je parle. On peut servir Dieu et être très loin de lui. J'étais peut-être pas très loin, mais en fait quand même, c'était trop loin quand même. On peut, malgré nos prières, malgré nos sacrifices, puisqu'on voit souvent dans la Bible que le Seigneur reproche aux chrétiens d'offrir des sacrifices, et Dieu est contre ces sacrifices. Pourtant, c'est lui qui les a institués. Quand il dit, mais quand vous chantez des cantiques, je n'écoute pas. Qui c'est qui a institué les cantiques dans l'Église? C'est qui? C'est nous ou c'est Dieu? C'est Dieu. Et Dieu dit, quand vous m'offrez certaines offrandes, c'est pire que si vous m'offriez du sang de porc. Comme vous regardez dans l'Ancien Testament, comment le porc était une bête vraiment impure. Et on voit, on pourrait en prendre un d'ailleurs. Dans Amos, Osée, Joël, Amos, vous voyez, deux livres après. Regardez dans Amos au chapitre 6, et ça revient en boucle. Si vous prenez le temps de recenser tous les textes qui en parlent, vous allez voir, vous allez y passer beaucoup, beaucoup de temps, trop d'ailleurs. Regardez, quand Dieu exprime, vous voyez, ils n'ont jamais abandonné le culte. Il faut bien comprendre ça. Amos 5, verset 21. C'est le même contexte, c'est le procès de Dieu. Le Seigneur est mécontent. Il y a les sacrifices, il y a la prière, il y a l'encens, regardez. Je méprise vos fêtes. Pourtant, je peux vous assurer que c'était Dieu qui les avait instituées, ce n'était pas eux. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Ce n'est pas la justification, c'est la justice, c'est-à-dire l'obéissance. Et on pourrait prendre comme ça. Il y en a plein, plein. Et c'est dommage, ce serait bien qu'il n'y en ait qu'un. Mais hélas, il y en a presque dans tous les livres de l'Ancien Testament où Dieu dit vraiment qu'il n'écoute pas. Et on peut tout faire. Tout faire, c'est ça le drame dans l'Église. On peut tout faire sans obéir. Est-ce que vous comprenez? On peut servir Dieu sans lui obéir. On peut chanter sans obéir. On peut prêcher sans obéir. Tout faire sans obéir. Vous pouvez me dire, mais c'est de l'obéissance. Non, non, non. C'est du service. C'est autre chose. Mon peuple est détruit. Dieu n'est pas d'accord avec cette affaire. Le Dieu n'a pas dit, je détruirai mon Église. Dieu a dit, je bâtirai mon Église. Nous sommes ici pour travailler à construire l'Église. Nous, ce que nous voudrions, par exemple, c'est que tous nos enfants soient sauvés. Vous êtes d'accord ou non? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous nos enfants soient sauvés? Le peuple de Dieu, il bâtit, il construit. Jésus est formel, je bâtirai mon Église. Dans une ville où Dieu nous a placés, comme nous ici, Dieu nous a placés dans cette assemblée, eh bien on doit travailler à construire l'édification de l'Église. La sanctification de l'Église, la justice dans l'Église. Heureux les hommes qui pratiquent la justice. Et ce que cette parole sévère, très sévère, mais enfin, tant mieux, vous acceptez que Dieu puisse être sévère envers chacun de nous si c'est nécessaire? Ou ça vous irrite? S'il y a quelqu'un qui est irrité, levez-vous. Je vous plains vraiment. Si vous n'acceptez pas quand Dieu vous reprend, vous êtes vraiment loin de Dieu, vraiment loin de lui. Ça se corrige, hein, ça se corrige. Ce qui est valable pour tout un peuple est valable pour une personne aussi. Vous le comprenez bien, mon peuple, mon fils, ma fille. Est-ce que tu es en train de laisser l'ennemi détruire ta foi? Est-ce que tu es en train de laisser l'ennemi te promener comme une marionnette, en fin de sorte que tu es en train d'abandonner la foi? La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi, qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça fait pitié, ce sont des prophéties en plus. C'est des choses qui hélas, s'accompliront. Mais si je manque de connaissance de Dieu, je ne parle pas de la Bible, moi je peux vous dire, moi je sais de quoi je parle. Je le sais très bien. La connaissance de Dieu, le connaître à lui. Le connaître davantage. Quelqu'un qui veut connaître Dieu, il sera toujours touché, même sur un champ, sur le calvaire, si c'est 1000 fois qu'il en entend. Oui ou non? Quelqu'un un jour m'a dit, mais pourquoi vous prêchez sur la croix des cultes? Les chrétiens, ils sont convertis, monsieur, vous vous inquiétez pas. Les vrais chrétiens, ils ne se lasseront jamais de chanter un cantique sur la croix. Jamais. Même un cantique d'évangélisation. Ça, je peux vous le dire. Mais pourquoi tant de gens rétrogrades? On est malheureux. Ce matin, dans la voiture avec ma femme, on parlait de ces gens qu'on a connus ici, qui servaient. Je peux vous dire qu'ils servaient. Et certains me servaient bien. Et pourtant, ils ont rétrogradé. Le mot ne vous prie peut-être pas, mais en tous les cas, ils ont abandonné Dieu. Comment cela est possible que des gens qui ont fait des expériences plus belles les unes que les autres, plus fortes les unes que les autres. Alors vous allez me dire, mais oui, monsieur Gauss, c'est simple, Dieu nous a laissés libres. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on est libre. Si quelqu'un veut sortir, il peut sortir. Si quelqu'un veut abandonner Dieu aujourd'hui, là, il peut l'abandonner. Dieu ne vous obligera pas. Dieu nous laisse libres. La bénédiction, vraie bénédiction, repose sur cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais moi, je crois que si beaucoup de gens ont abandonné Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et on va voir quelques textes qui nous prouvent que ça peut être généralisé. D'ailleurs, un peu plus loin, je l'ai marqué, oui, au verset 9. On voit, parce que des fois, on voit bien qui c'est qui est responsable. On le voit, c'est clair. C'est pas toujours clair à première lecture, mais là, on voit que... Regardez comment c'est écrit, verset 9. Oui. Regardez. Il en sera du sacrificateur, donc du serviteur, comme du peuple. Bon, ça suffit, c'est pas la peine d'en lire davantage. Mais ça veut bien dire une chose, c'est que là, ça concerne tout le monde est dans le même rayon. Tout le monde est au même point. Tout le monde est responsable. Et dans une église, nous devons absolument veiller les uns sur les autres afin de nous exhorter à une véritable piété. Est-ce que vous aimez veiller sur votre frère s'il dit une ânerie? Est-ce qu'on est capable de le reprendre? Ou est-ce que c'est déjà trop tard et que la personne n'acceptera plus un reproche? Est-ce que ça peut arriver, ça, que des chrétiens n'acceptent même plus un reproche? Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Il faut des explications. Nous sommes là, on est sous le regard de Dieu. Est-ce que vous partez du principe où là, maintenant, nous sommes devant Dieu, devant lui, devant sa sainte parole, permettant au Saint-Esprit de nous interpeller par rapport à la façon dont nous le connaissons ou nous ne le connaissons pas. Là, on voit que tout le monde est dans le même lot. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Des fois, c'est lié qu'au sacrificateur. On le voit souvent, d'ailleurs. Mais il peut arriver que ça soit lié à tout le monde. Alors, il faut des explications. À quoi connaît-on que quelqu'un connaît Dieu? Comment vous l'expliqueriez-vous, votre connaissance de Dieu, au fait? Comment vous l'expliqueriez? Vous arriveriez à le synthétiser sur une page? La façon dont on connaît Dieu? Comment voit-on quelqu'un qui n'a pas de connaissance de Dieu? Est-ce que pour vous, il peut y avoir des croyants qui n'ont pas du tout de connaissance de Dieu? Et qu'est-ce que la connaissance de Dieu? C'est ce qu'on va voir pendant un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Vous regardez, ne le cherchez pas. Dans Jean, au chapitre 8, Jésus parle à des sacrificateurs, à des pasteurs, à des pharisiens. Regardez ce qu'il leur dit. Vous dites que Dieu est votre Dieu, Jean 8, 54, ne le cherchez pas. Vous dites que Dieu est votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Voilà ce que Dieu dit à des religieux. D'ailleurs, ils l'ont crucifié, pour vous dire, s'ils le connaissaient. Vous voyez, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que j'affirme que je suis chrétien que je connais Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous êtes toujours dans Osée, au chapitre 6 et au verset 6, Le Seigneur réexplique. Vous savez, il faut lire un livre en entier. Quand je vous donne un verset, ne vous privez pas dans la semaine de lire le livre en entier. C'est pas, surtout que là, c'est pas beaucoup. Il y a 13 chapitres ou 12. Voyez, Osée 6, 6. Car j'aime la miséricorde. On en a parlé dimanche dernier. Et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est impressionnant le nombre de je vais essayer de le faire, tiens, de les recenser, le nombre de textes qui enseignent cela. On voit bien que Dieu, j'allais dire que Dieu en souffre. Oui, je pense que le cœur de Dieu est souvent affligé à cause de cette ignorance qui a détruit, je reprends le mot, qui a détruit les églises, qui a détruit le peuple de Dieu. Et Jésus le dit, mais vous ne le connaissez pas. Faire des sacrifices, c'est beau, chanter, c'est bien, prêcher, c'est bien. Il y a des gens qui prêchent, ils seront en enfer. C'est écrit ou c'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit? Bien sûr que c'est écrit. Vous voyez bien que je n'exagère pas et je ne m'autoriserai pas à exagérer. C'est trop sérieux, notre éternité. Vous vous rendez compte, l'éternité entière, avec ou sans Dieu. Quand Dieu va dire à des gens qui auront servi, qui avaient des dons, parce qu'un don, je vais vous dire, un don c'est une chose, mais le fruit c'en est une autre. Et nous avons prophétisé, en ton nom, il prophétisait, il devait avoir une communion avec Dieu. Non! Il a imposé les mains aux malades, les malades ont été guéris. Oh, quel onction il devait avoir. Non, c'est un don. Jésus dira à ces gens, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc on peut servir et ne pas connaître Dieu. Dieu peut approuver notre ministère, ça ne dure pas longtemps en principe. Mais quand même, on reconnaît les arbres aux fruits. C'est important, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas parce que je fais quelque chose, que j'ai appris à faire quelque chose. Je disais l'autre jour aux anciens, même je disais à des pasteurs, mais moi, ce que je vais vous dire, ne riez pas. D'accord ? Je disais, mais moi, je vous prends un païen, j'ai pas besoin qu'il se convertisse, et j'en fais un pasteur. J'en suis sûr. Un bon. Un païen, hein ? Parce que ça, on peut enseigner l'art oratoire à un païen. Est-ce que vous comprenez? Je dis ça, ils ont souri, mais bon, c'est bien. Vous n'avez pas souri, je vous aurais prévenu, Marc. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on va dans une église et qu'on sert Dieu qu'on a la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, déjà, ça se voit, on le verra tout à l'heure, mais il a vraiment du respect pour la parole. Vous aimez la parole? Dans Esaïe, dans Osée toujours, regardez. On voit que Dieu en plus pose des questions, parce que c'est un livre où il y a un procès, mais en même temps, Dieu pose des questions pour faire réfléchir. On sent que ça va mal, ça va très loin. Regardez verset 4, 6, verset 4. Que te ferais-je, Ephraïm ? Il pose des questions, de leur dire, mais je ne sais même plus par quelle épreuve te faire passer. C'est ça que ça veut dire. Que te ferais-je, Ephraïm ? Que te ferais-je, Judas ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Voyez ? Ça fait quand même de la peine, frères et sœurs. Dieu pose la question, mais quelle est l'épreuve? Bien sûr que Dieu sait très bien ce qu'il doit faire. Ça s'appelle un anthropomorphisme. C'est une façon de parler pour que nous comprenions bien que Dieu se soucie de notre santé spirituelle. Et Dieu n'est pas intéressé par nous bombarder d'épreuves. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une vraie piété. Et cette piété, elle vient par la connaissance de Dieu, par le respect de la parole, le respect des cantiques, le respect de la Sainte Cène. Quand on entre dans une église, on n'est pas à la foire. Quand on est dans une église, on est dans la maison de Dieu. Mais dans la maison, mais tout à l'heure à l'accueil, tout à l'heure à la maison. Tout à l'heure, partout, de toute façon, partout. Si on fait la comédie, là, c'est un truc qui ne va pas. Regardez ce texte, gardez la page. Regardez avec moi, pour vous expliquer bien que c'est lancinant, c'est un sujet, vous pouvez prendre une concordance et y passer quelques semaines. Regardez, alors c'est dans 1 Samuel. Il nous est parlé de Élie, qui était le sacrificateur, et de ses fils. Regardez ce qu'il nous est dit des fils. Alors c'est très succinct, mais ça fait rien. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. C'était des sacrificateurs, c'est dit au verset 13. Mes frères et sœurs, c'est écrit pour que justement on réagisse à la raison pour laquelle Dieu peut émettre un procès. 1 Samuel chapitre 2 verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'est quoi qui est écrit après ? Ils ne connaissaient pas l'Éternel et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Vous voyez, c'était des sacrificateurs, c'était des serviteurs de Dieu. Et pourtant, Dieu dit que ces hommes ne connaissaient pas l'Éternel. Vous voyez, un petit peu. Alors, je suis sûr, quand on voit la suite, on n'a pas de mal à douter. Ils ne connaissaient absolument pas Dieu, ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Et quand on voit aujourd'hui, parfois, excusez-moi le terme, mais le cinéma qu'il y a dans les églises, je peux vous dire qu'autant les sacrificateurs que le peuple, les gens ne connaissent pas Dieu. Croyez-moi, croyez-moi. Dans 1 Chronique, ne cherchez pas 28, verset 9, David dit à son fils Salomon, quand il va lui passer la main, il lui dit, « Mon fils, connais l'Éternel. » David connaissait Dieu. Vraiment, c'est quelqu'un qui savait, qui connaissait le cœur de Dieu. Autant quand il était berger que quand il était roi, il a fait des progrès malgré ses erreurs. En tous les cas, il les a toutes corrigées. Et je crois que quand on connaît Dieu, on n'est pas à l'abri de certaines erreurs, c'est vrai, et même de certains péchés. J'en conviens. Mais je crois que quand on aime Dieu, on a vraiment le souci de réparer. Oui ou non ? Connaît l'Éternel, il sait, ça va être son fils, va devenir le roi. Il sait très bien, il lui dit pas, écoute, Salomon, fais attention au ministre de l'industrie, au ministre des routes, au ministre de la guerre. Non, il lui dit, connaît l'Éternel. Un roi, il est préoccupé par les finances. Mais David, il n'était pas préoccupé par les finances. Il était préoccupé par le fait que son fils apprenne à connaître Dieu. Je ne sais pas si vous êtes préoccupé par le fait que les gens qui viennent à l'église découvrent vraiment Dieu. Parce que les jeunes qui viennent à l'église, ce sont comme nos enfants. Et nous voulons que les gens connaissent l'Éternel. Pas, bien sûr, ça passera par la doctrine, ça passera par la connaissance théologique, doctrinale. C'est écrit, je veux que vous sachiez. Et après qu'on expérimente, on ne peut pas expérimenter certaines choses si on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes et beaucoup de disgrâces, beaucoup de fausses doctrines, parce que les gens expérimentent certaines choses, mais ils n'ont jamais vérifié si c'était vraiment ce que Dieu voulait. C'est grave, parce que là, les pasteurs, je peux vous dire que quand on va passer devant Dieu, vraiment, on aura des comptes à rendre. Connais l'Éternel. Regardez dans Jérémie. On est dans Osée. Regardez en avant. Regardez ce que Dieu dit. Mais je vous assure, des versets comme ça, ça fait peur tellement il y en a. Jérémie chapitre 2, verset 8. Je crois que c'est bien de lire ces versets, mes frères et sœurs. Je crois que c'est bien de lire. Jérémie chapitre 2, verset 8. Ce sont des textes que vous pouvez noter peut-être. Parce que si Dieu un jour vous appelle à le servir, il est peut-être souhaitable que vous ayez bien mémorisé ces versets. Jérémie chapitre 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Regardez la suite, c'est ce qui nous intéresse. « Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. » Et si vous lisez un peu plus loin, vous voyez, parce que c'est rempli d'explications en plus. Jérémie 10... Jérémie, verset 21. Vous voyez, où l'on voit de nouveau que la tente est détruite. Vous voyez, au verset 20. Mais pareil, ce mot, ça prouve bien de qui ça vient. Ça ne vient pas de Dieu, croyez-moi, parce que c'est facile de critiquer. Quand on ne connaît pas Dieu, on parle mal de Dieu. Voilà, si vous parlez mal de Dieu, je peux vous dire que vous ne le connaissez pas. Faites-moi confiance. Verset 21, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Vous voyez, ils n'ont pas cherché Dieu. Le résultat, les dépositaires de la loi, verset 8, ne m'ont pas connu. Et voilà, encore une fois, là c'est sur les pasteurs. Dans Jérémie, c'est surtout sur les pasteurs. Et ça a eu des conséquences terribles sur le peuple. Et là encore, on voit des procès. Ceux qui devaient apporter la connaissance de Dieu. C'est important dans une église que notre pasteur connaisse Dieu. Vous priez pour que je fasse des progrès? Vous priez pour que je fasse, pour que je prêche bien ou que je connaisse Dieu? Mais ouais. Il faut que vous priez pour que je le connaisse davantage. Il faut faire, c'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça. Ils étaient chargés d'apporter la connaissance du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Le résultat, tout le monde a abandonné Dieu. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible, là vous en avez la preuve. Vous voyez, des fois je dis des choses, les gens me posent des questions, mais c'est par rapport à l'analyse de ces versets que je vous le dis. Si la Bible dit qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Et ils auraient dû le connaître, ils auraient dû prendre du temps, et du temps de qualité, et du temps de silence pour entendre la voix de Dieu par sa parole. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Et le résultat, il est là, c'est que nos églises sont détruites. Et moi, j'ai envie que toutes nos églises soient bénies. Parce que je peux vous dire que si vous n'avez pas compris la volonté de Dieu, en tous les cas, elle est là. Dieu veut que nos églises soient bénies. Que nos couples soient bénis. Vous le croyez que Dieu veut bénir les couples? Les familles? Que quand nos enfants viennent, ça sent une joie. Je me souviens de cette chrétienne qui a rétrogradé, qui avait dit à ma femme, le soir je ne rentre pas à la maison, j'ai pas envie de voir mon mari, je reste au boulot le plus tard possible. Que c'est dommage quand ce sont des chrétiens qui parlent comme ça. Vous ne croyez pas? Ouais, et c'est pas vieux ça. Oui, il y a des gens qui parlent de Dieu. Les dépositaires de la loi, ils parlaient de Dieu. C'est clair qu'ils devaient peut-être même bien prêcher. C'est fort possible. Les pharisiens étaient vraiment férus, hein, croyez-moi. Mais ils ne le connaissaient pas. Alors à quoi reconnaît-on quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Parce qu'en fin de compte, il faut avancer. D'accord? Alors, c'est pas compliqué. Quand, j'ai mis entre guillemets, mais ça fait rien. Quand la religion devient un fardeau. Quand l'Église devient un fardeau. Alors je sais qu'il y a des églises où ça ne va pas et ça peut être un combat. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas des combats. Mais quand on connaît le Seigneur, quand même l'Église, quelle grâce. D'avoir des frères, des anciens, des vieux, des jeunes. C'est pas une grâce, hein? Quand ces choses-là, ça finit par nous énerver, nous fatiguer, quand la prière, qui quand même, qui englobe, que vous le vouliez ou non, cette grande part de communion avec Dieu, quand la prière devient un fardeau, je dis bien là aussi, je sais que la prière peut être un combat, mais ne me faites pas dire ce que je dis pas, parce que des fois on me fait dire plein de choses, je vais dans les églises, des fois, monsieur Gau, vous avez dit ça, ah bon? Et c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais faut être... bon, ça, c'est pas grave. Mais la prière, est-ce que c'est un fardeau pour vous? Est-ce que prier, vous... C'est vrai que moi, des fois, je me force. Mais quand même, quand je suis dans la prière au bout de quelques minutes, d'un quart d'heure, je trouve que ça devient un plaisir. Vous comprenez? Si vous retrouvez seul avec Dieu, avec votre Sauveur, avec votre Seigneur, avec le Créateur de l'univers. Moi, je trouve que c'est quand même un rendez-vous qui n'est pas trop mal. Si ça ne vous intéresse pas beaucoup, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Il vous faut l'accepter, frères et sœurs, si on veut connaître le Seigneur. Il vous faut le corriger, ne vous traumatisez pas. On n'est pas là pour blesser qui que ce soit. Mais si ces choses sont réelles dans votre vie, eh bien, corrigez-vous. Si vous n'êtes jamais bouleversé par un verset... Je sais bien que ce n'est pas tout facile à comprendre, mais il y a quand même des paroles qui nous touchent, oui ou non? Quand vous lisez la parole, il n'y a pas des versets qui vous touchent de temps en temps? Il n'y a pas une parole qui vous émeut? Oh, moi ce matin, vous voyez, quand pourtant Jonathan a lu pour introduire les cantiques, Ésaïe 53... Mais c'est quand même merveilleux, toutes ces questions, parce que les questions que Dieu pose, elles sont toutes intelligentes. Moi, chaque question, moi, ça m'arrête, hein, toutes les questions. Quelqu'un qui n'a aucune conviction, qui est là dans l'église, tout le temps en train de râler contre l'église, de râler contre les pasteurs. Quand je vois ces centaines de pasteurs qui ont arrêté en quelques années, moi, ça me brise le cœur. J'ai peur qu'il y ait eu un retour de manivelle à cause des chrétiens qui ne sont pas bien. Il y a des pasteurs qui sont découragés, pas par les ténèbres. Ils sont découragés par les chrétiens. Je pense que ça vient, ça, dans une église où on ne connaît pas Dieu. Je le pense vraiment. Un chrétien qui récite des prières plutôt que de prier de tout son cœur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La liste va être longue. D'ailleurs, quand je ne connais pas Dieu, il y a déjà, ils ont même pas la nécessité de prier. Mais pourquoi prier? J'ai pas le temps. Mes frères et sœurs, moi je veux accabler personne, et surtout pas. J'ai dû le faire malencontreusement, et je vous demande pardon si je l'ai pu le faire. Mais je crois, mes frères et sœurs, que quand on n'a plus du tout envie de prier, ou quand on récite des prières, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la connaissance de Dieu. Quand les chrétiens sont tout le temps en train d'imputer à Dieu ce qui ne va pas. Ils ont péché, ou alors ils ne savent pas encore le temps de Dieu, et je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça, et pourquoi Dieu n'a pas fait ça, et avec ce qui se passe. Eh bien moi je peux te dire que si j'étais à la place de Dieu, il y a longtemps que je serais intervenu. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ces gens-là. C'est sûr. Il y a un texte, vous le lirez, je ne vous le lis pas. C'est dans Deutéronome 32, verset 5. 32, verset 5. Et on voit, c'est une parole, et c'est Dieu qui passe. C'est le cantique de Moïse, il sait qu'il va mourir. Il termine sa vie, quoi, en chantant. Je peux vous dire qu'on va y revenir à Moïse. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, s'il y a une faute, elle n'est pas du côté de Dieu. Deutéronome 32, verset 5. Et pourquoi si? Et pourquoi? Regardez Malachie, ils sont vraiment tous mal. Et oui, Dieu n'est pas juste, et Dieu n'est pas amour, et on a offert des sacrifices, et ça ne lui convient pas, mais ils mettent tout sur Dieu. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu impose sa propre volonté à Dieu. Seigneur, fais ça. Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. Oh, qu'est-ce que ça paraît consacré? C'est pas du tout consacré, ça. Seigneur, que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas, ben je te servirai. Oui ou non? Mais qu'est-ce que c'est, ce chantage? C'est du chantage. Ouais. Celui qui ne connaît pas Dieu, je le répète, il impose sa propre volonté au Seigneur. Celui qui ne connaît pas Dieu, de toute façon, il ne cherche pas la volonté de Dieu. Il ne cherche pas la volonté de Dieu, d'autant plus que c'est compliqué, puisque Dieu a dit « mes pensées ne sont pas vos pensées ». On pourrait argumenter un peu plus. Celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas intéressé par la communion avec Dieu.
Il est intéressé par plein de choses, de la terre, il aime le monde. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses utiles et saines. Je suis sûr qu'il y a des choses saines qu'on peut faire. Mais quand même, quelqu'un qui n'a pas de commune, qui ne connaît pas Dieu, il sera même pas capable de discerner ce qui est sain de ce qui est malsain. Un jour, il y a un chrétien, il m'a téléphoné, il m'a dit « Monsieur Gou, est-ce qu'on peut regarder des films érotiques ?» Mais je croyais qu'il plaisantait, parce que des fois, il y a des gens qui blaguent. J'ai dit « Mais vous plaisantez ?» Il me dit « Non, mais moi, vous savez, je fais une grosse différence entre l'érotisme et le pornographique. Je ne regarderai pas des films pornographiques, mais je pense qu'on peut regarder ce qui est érotique. Après tout, c'est Dieu qui a créé le corps. » J'ai dit « Écoutez, convertissez-vous. » C'était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Alors, je pourrais vous en donner des témoignages plus tristes les uns que les autres. Une femme de pasteur qui m'a envoyé un mail, je vous le dis, parce que si je vous raconte tout, vous ne le croirez pas. Vous direz, monsieur Gou, il vieillit mal. Un des derniers mails que j'ai reçus, une femme de pasteur, qui m'écrit et me dit, voilà, monsieur Gou, je vous écoute sur Internet, ça me fait du bien. Enfin, je ne pense pas que ça devait faire tant du bien que ça. J'ai rencontré un homme, voilà, parce que mon mari... ne me satisfait plus. Alors Dieu m'a consolé en me donnant un amant. Moi, ça ne m'a pas fait trop rire, franchement. Je lui ai expliqué, elle ne m'a pas répondu, bien sûr. Mais c'est une femme de pasteur. Elle ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez ri, mais moi, ça ne m'a pas fait rire beaucoup. Parce que je me demande, je sais dans quel état est l'Église. Le peuple de Dieu est détruit dans cette église. Les prophéties bibliques, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, le retour de Jésus. Vous attendez le retour de Jésus? C'est bien. Si vous ne l'attendez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va bien sûr terminer avec ce qui nous intéresse. On ne va pas faire un procès catastrophiste. Et in aeternum, il faut qu'on passe à ce texte de qu'on a lu en dernier. Vous êtes d'accord? Quand Dieu dit, mais cherchons, osez. Alors on y retourne. Osez 6, verset. Il faut terminer avec ça, mes frères et sœurs. Il faut vraiment terminer avec cette note de grâce. Notre Dieu qui ne cesse de nous inviter. Vous vous rendez compte? Connaissons. Voyez, et là, je m'adresse aux frères qui prêcheront, qui présenteront la Sainte Cène. Veillez, quand vous prenez un texte difficile, à regarder dans le livre comment Dieu compense par la bénédiction. Voyez, on voit bien que Dieu n'est pas d'accord avec ce procès. Bon, mais ça, c'est clair, vous l'avez compris. Mais regardez ce que Dieu est d'accord avec. Osée 6:3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà la volonté de Dieu. Alléluia. Là, vous pouvez sourire. Là, vous pouvez rire parce que c'est vraiment une grâce de Dieu de savoir que il y a pas que le procès. Il y a une merveilleuse invitation, que son nom soit béni. Il y a une proposition de reconstruction. C'est ça, mon peuple détruit. Mais moi, dit le Seigneur, j'ai le pouvoir de reconstruire. Il est tout puissant, le Seigneur. Il faut bien comprendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelle église, n'importe quelle nation, n'importe quel foyer. Votre foyer peut être en danger. Dieu le reconstruit. Il le propose. Il nous propose. Ça s'adresse au peuple de Dieu, ça s'adresse à une famille, ça s'adresse à un individu. Peut-être que vous êtes le seul chrétien dans votre famille. Eh bien, vous pouvez dire, Seigneur, eh bien, moi, je vais te chercher. Eh bien, si vous le cherchez, vous le trouverez. Si quelqu'un me dit qu'il cherche Dieu et qu'il ne le trouve pas, ça finira aux urgences. Mes frères et sœurs, si vous cherchez Dieu, vous le rencontrerez. Cherchez-moi. Oui, pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et Dieu dit, mais cherchez-moi. Gloire à Dieu. Moi, quand je disais ça, franchement, je me disais, oui, il y a vraiment la bénédiction. Dieu n'a pas l'intention de nous laisser dans la défaite. Je sais qu'il y a des moments difficile, mais c'est pas la volonté de Dieu que nous restions dans la défaite ou dans le découragement. Si on reste dans l'ignorance, je peux vous dire que c'est de notre faute. Croyez-moi, ça c'est biblique. J'ai pas le temps de l'argumenter, mais croyez-moi. On va regarder un témoignage, vraiment, un témoignage qui fait chaud au cœur. Exode. Regardez ce beau chapitre, ce beau texte. On va prendre l'exemple de Moïse. Moïse a fait plein d'expériences. Vous connaissez la vie de Moïse? Il a fait des expériences quand même bien, non? Vous ne trouvez pas qu'il a fait des expériences? Et comment il communiquait avec Dieu? Comment... C'est un homme qui a, qui a vraiment fait des expériences. Et un jour, il n'est pas content de tout ça, il n'est pas satisfait. Et regardez ce qu'il dit. Exode 33, on se demande, tiens, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien oui, il connaît Dieu. Il connaît Dieu, Moïse. Bon, ça, on s'en doute, là, on n'en doute pas. Regardez bien, frères et sœurs. Regardez bien comment Dieu est bon. Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Voilà, ça c'est bien. Alors on peut s'attendre, on dit, il va y avoir des éclairs, des comètes, des tremblements, du feu, du tonnerre, je ne sais rien. Regardez. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi, pardon, toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde, vous pouvez le dire. Il demande à le connaître davantage. Dieu est d'accord, bien sûr, croyez-moi. Fais-moi voir ta gloire. Alors nous, c'est sûr que si on avait tout ce qu'il a vécu, etc., on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il va voir ? Et Dieu lui parle de bonté, de grâce. De miséricorde. Est-ce que vous vous rendez compte? Et justement, c'est pour ça, ce matin, quand je priais, j'avais ce verset qu'on a lu en premier, ils le dépouillèrent, ils lui ôtèrent ses vêtements. J'étais en train de prier, ça a duré longtemps. Hein. Et j'ai compris que c'était à introduire dans la prédication. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est pas conscient de sa bonté. Ils lui ôtèrent ses vêtements. C'est archi grave ce qu'ils ont fait. Ils l'ont laissé presque avec rien. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Spirituellement, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a ôté au Seigneur sa divinité. Vous croyez que Jésus est Dieu ? Et quand ils lui ont ôté ses vêtements, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que même Jean-Baptiste, il ne se sentait pas digne de dénouer la courroie de ses souliers. Et eux, ils n'ont rien compris. Et ils l'ont humilié. Et quand nous dépouillons Jésus de sa divinité, de son amour, ouais, si Dieu m'aimait, je ne serais pas dans ce pétrin. Eh bien, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de le dépouiller de son amour. Dieu vous aime, il sait ce qu'il fait. Et quand Moïse voyait tout soucieux de le connaître davantage, « Fais-moi voir ta gloire, je vais faire passer devant moi ta bonté. » Merci Seigneur. Vous croyez qu'on peut reproduire cette expérience, Seigneur, mais moi je veux te connaître davantage. Eh bien, découvrons la bonté de Dieu, redécouvrons sa puissance. Il est le prince de la paix. Tout à l'heure, nous avons entendu un don spirituel où Dieu adressait ce message à quelqu'un. Je suis le prince de la paix. Viens te blottir. Vous l'avez entendu? Et les gens ont dépouillé le Seigneur de sa puissance. La paix, c'est une immense puissance. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Alors c'est sûr, quand on lit comme ça, bien sûr, on le sait, on l'a lu 100 fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui connaît Dieu, il va s'arrêter. Moi, je vous assure, hier, je me suis arrêté en prière. Ça s'est imposé. Je pense que ce n'était pas que pour moi, c'était pour nous. Mais combien de chrétiens ont dépouillé le Seigneur Jésus de sa puissance ? Est-ce qu'il est digne de confiance, le Seigneur ? Les gens qui ont peur. Alors je sais qu'il y a des soucis, il y a des inquiétudes. Et Jésus n'a pas dit, c'est pas normal que vous vous inquiétez. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne dites pas à quelqu'un qui régulièrement s'inquiète, ou régulièrement a des angoisses, ou régulièrement a peur qu'il n'est pas converti. C'est pas vrai. Mais mes frères et sœurs, nous pouvons revêtir le Seigneur Jésus de sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Et si ça m'arrive de m'inquiéter parce que mon fils, parce que ma fille, parce que cette situation, Seigneur, je te fais confiance, tu es tout puissant. Ne liotons pas sa divinité, sa puissance, sa grandeur, sa fidélité. Ne liotons pas son amour. Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il dit juste avant, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ne répondez pas à haute voix. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a goûté que le Seigneur est bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, ah oui, oui, oui. Si vous avez goûté que Dieu est bon, peut-être qu'une fois, ça suffit. Désirez ce lait merveilleux. Vous ne croyez pas? Seigneur, parle-moi ce soir, peut-être plutôt que de regarder des âneries, j'en sais rien, ce que vous faites, ça ne me regarde pas. Mais peut-être que j'aimerais, Seigneur, que tu me touches. Je ferai passer ma bonté. Vous savez, moi, quand je prêche comme ça, il y a plein de textes qui me viennent à l'esprit. Je pense à la façon dont est mort Aaron. Il est mort, vous savez comment, Aaron ? Quand on lui a retiré ses vêtements de sacrificateur. C'était la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je crois quand même qu'ils sont beaux, les chrétiens, quand ils sont revêtus d'un ministère, d'un service. Et qu'après qu'ils ont exercé leur service, je pense qu'ils peuvent s'attendre à ce que Dieu les reprenne. Vous voyez, je dis ça, ça me vient à l'esprit, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il veut faire passer devant toi sa miséricorde. Je me tiendrai devant toi, Seigneur. Je ne veux pas être détruit. Je ne veux pas détruire l'Église que tu me confies ou que tu me confieras. Je ne veux pas détruire ma famille. Je ne veux pas détruire les gens que je côtoie. Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on peut connaître vraiment mieux le Seigneur? Est-ce que dimanche prochain, en venant ici, on peut dire, tiens, mais moi, je vais chercher à connaître davantage le Seigneur. Même si l'apostasie s'installe, eh bien, c'est plus mon problème. Quelque part, attention, entre guillemets, même si l'iniquité s'installe, que t'importe les autres, te dit le Seigneur. Toi, suis-moi à celui qui vaincra. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut dire, eh bien, moi, j'adopte ce merveilleux conseil, c'est pas un conseil, c'est une invitation, je veux connaître le Seigneur Jésus. De connaître le Seigneur. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît? Est-ce que, vous voyez, on l'a chanté tout à l'heure, ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ça ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Il y a quelqu'un qui le croit, ça? Il y a des gens, vous voyez, alors, on ne va pas refaire la prédication, mais on va lui demander de l'aide. Vous voulez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, moi je veux de l'aide, j'ai besoin d'aide? Eh bien, vous pouvez être sûr qu'il vous aidera. Écoutez, c'est certain. Si Dieu ne vous aide pas, c'est que votre démarche n'est pas vraie. Mais si votre démarche, elle est vraie, Dieu vous aidera. On ferme les yeux et on le prie. Ce grand Dieu, ce grand Seigneur. Notre Père, tu as certainement été en procès avec chacun de nous plusieurs fois. Plusieurs fois, tu aurais pu certainement nous adresser les mêmes propos. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton pardon. Et nous ne voulons pas ôter de ta vie le pardon. Tu es le rédempteur du monde et tu aimes pardonner. Seigneur, merci de ton aide. Tu vois tous ceux qui te prient honnêtement. Toi, tu connais les pensées de tous les hommes. Et dans la paix, et dans une confiance totale, Seigneur, nous te remercions pour ton aide que tu vas accorder à tous ceux qui vont désirer ce lait spirituel et pur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.